Passe Factif 102.4. Bonjour. Toute l'équipe de Vous à nous, on vous dit presque tout, est heureuse de vous retrouver pour son émission mensuelle et souhaite la bienvenue aux nouvelles oreilles prêtes à nous découvrir. Aujourd'hui, notre émission sera consacrée au handicap. Qu'est-ce que le handicap? L'OMS l'a défini ainsi. Est handicapé ou porteur de handicap, tout sujet dont l'intégrité physique ou mentale est passagèrement ou définitivement diminuée, soit congénitalement, soit sous l'effet de l'âge, de la maladie ou d'un accident, en sorte que son autonomie, son aptitude à fréquenter l'école ou occuper un emploi s'en trouve compromise. Les handicaps sont nombreux, moteurs, cognitifs, psychiques, mentaux, sensoriels. S'ils sont visibles, beaucoup ne le sont pas. Notre émission sera émaillée de témoignages, de billets d'humeur, d'interviews, d'intermèdes musicaux, de chroniques, de contes. Je vous laisse maintenant. Bonne écoute.
Mon handicap, c'est pas méchant, même si je boite, même si elle tremble. Ça n'est pas mon corps trop lourd, qui bouge pas quand d'autres courent. Mon handicap, c'est pas mes yeux, qui ne voient pas ton beau ciel bleu. C'est pas les murs de mon silence, c'est pas mes journées d'espérance. Mon handicap, c'est ton cerveau. Mon handicap, ce sont des mots comme différence, comme anormal, mon handicap. C'est ton cerveau, mon handicap. Ce sont des mots, c'est ce que tu penses et qui me fait mal. Mon handicap, c'est pas ma faute, pas mon fauteuil, ma chaise haute. C'est pas ma tête quand elle dit, c'est pas ce que je peux pas dire. Mon handicap, c'est pas mes doigts qui n'écrivent plus, qui touchent pas. C'est pas ma famille, mon salaire, et pas non plus de quoi j'ai l'air. Mon handicap, c'est ton cerveau. Mon handicap, ce sont tes mots comme différence, comme anormal, mon handicap. C'est ton cerveau, mon handicap. Ce sont tes mots, c'est ce que tu penses et qui me fait mal. Mon handicap, c'est pas l'envie d'avoir un jour venu ta vie. Et ça n'est surtout pas mon monde qui ne sera jamais ton monde. Mon handicap, c'est ton cerveau. Mon handicap, ce sont tes mots comme différence, comme anormal. Mon handicap, c'est ton cerveau. Mon handicap, ce sont tes mots, c'est ce que tu penses et qui fait mal, 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 mon handicap. C'est ton cerveau, mon handicap. Ce sont tes mots, c'est ce que tu penses et qui fait mal, qui me fait mal.
Nous venons d'écouter Grégoire chanter Mon handicap. Et maintenant, nous accueillons Marie-Hélène Dupoux. Je vais vous laisser vous présenter et vous nous dire ce que vous pensez de la chanson que nous venons d'entendre.
Alors, je m'appelle Marie-Hélène Dupoux. Je suis, pour me présenter par rapport à votre émission, je suis née sans avant-bras droit, il y a donc 61 ans maintenant. Et ça s'appelle une agénésie. L'agénésie, alors je vais vous faire très vite la médecine pour les nuls, parce que sinon ils vont décrocher à l'autre bout, c'est sûr. C'est quelque chose qui est encore un peu mystérieux, qui peut être lié, et à l'époque il y en avait pas mal, à des prises de médicaments. qui empêchait la croissance d'un membre, ou bien à quelque chose d'un peu raté à l'intérieur de la maman et qui empêchait le développement d'un membre supérieur. Dans mon cas, donc, on pense que c'est lié au cordon ombilical qui se serait entouré autour du bras droit et en aurait empêché la croissance. On voit d'ailleurs le moignon. Donc, je porte une prothèse depuis l'âge de 12 ans, ce qui a été un vrai plaisir, un vrai bonheur. Et par rapport donc à la chanson qu'on vient d'entendre de Grégoire, je suis entièrement d'accord sur ce qu'il dit, dans des termes très doux. Si j'étais moins douce, je citerais la célèbre phrase de Sartre qui dit « L'enfer, c'est les autres ». Donc, son enfer à lui, c'est le cerveau de l'autre qui le considère comme un handicapé avant tout. Et ça, c'est mon grand combat, mais peut-être je vous en parlerai au fil de l'émission.
Michel, je crois que tu as toi aussi quelques curiosités vis-à-vis justement des gens porteurs de handicap.
Oui, vous avez dit qu'à partir de l'âge de 12 ans, vous avez porté une prothèse. Est-ce que ça a été une période difficile ?
Oui et non. Alors d'abord, ça m'a tout changé la vie, parce que au lieu d'avoir des vêtements coupés à hauteur du coude, j'avais enfin un vêtement entier, d'où sortait une merveilleuse main. Bon, à l'époque, c'était ce que ça pouvait. Hein. On dépendait quand même encore du ministère des anciens combattants. Donc, bon, c'était pas... disons que c'était moins pire que si on n'avait rien eu. Mais c'était pas encore vraiment abouti. Hein. On a attendu longtemps pour avoir des prothèses dont les mains étaient équipées de silicone, ce qui ne se salit pas. Et enfin, ça ne se salit pas parce que ça peut se nettoyer à l'eau et au savon. Mais avant, on avait des espèces de mains toutes rigides. Comme je vous l'ai dit quand on s'est rencontrés, on avait vraiment l'impression que ça avait été fabriqué dans les ateliers du capitaine Crochet, quoi. C'était un truc, c'était pas possible. Donc, oui, ça a été une période merveilleuse parce que, enfin, j'ai gardé le manteau de mes 12 ans dans mon dressing. Le premier manteau que je portais avec une prothèse, ça faisait beau, quoi. L'esthétique était un peu respectée. Et enfin, le regard de l'autre commençait à s'estomper. C'est fatigant, hein. C'est fatigant. Alors après, oui, il y a eu des difficultés d'adaptation parce que j'avais donc tout le bras de l'épaule au coude enfermé pendant toute une journée dans une prothèse et ça m'a occasionné des boutons à ne plus savoir qu'en faire jusqu'au moment où j'ai découvert le talc, c'est pas mal. Hein. Donc j'ai mis du talc dans ma prothèse et ça, là aussi, ça a bien changé ma vie de porteuse de prothèse. Et puis, il y a eu une adaptation avec cette prothèse et avec ce qu'ils avaient pu faire de moi, de ce côté-là, par rapport à mon handicap. C'était un peu compliqué, il fallait se harnacher. C'était un petit peu compliqué. Mais bon, c'était beau, c'était chouette. Alors, on a fait ce qu'il fallait.
Alors justement, les difficultés que vous avez rencontrées enfant, vous nous en avez parlé, mais quelle était la réaction de votre famille, vos parents, vos frères et sœurs, je ne sais pas si vous en avez, alors cousins, cousines ou les autres enfants que vous rencontriez à l'école. Justement, ce regard pesant, est-ce qu'il était plus venu des enfants que des adultes ?
Non, pas des enfants, des adultes. Oh là là là, ils sont durs hein, des fois. Mieux vaut avoir un peu d'humour pour leur résister parce que ça peut être compliqué. À l'école, j'ai eu aucun problème, je me suis bien intégrée. La famille m'a connue que comme ça, donc au bout d'un moment, on ne voit plus le handicap. Marie-Hélène, elle arrive comme ça, elle est comme ça, c'est tout.
C'est déjà une bonne chose que les parents se comportent comme des parents normaux, quoi.
Mais en fait, ce qu'ils se sont dit, je crois, avec beaucoup d'intelligence, c'est que s'ils ne m'intégraient pas comme quelqu'un de normal, puisque pour le reste, tout allait bien, c'est jamais qu'un petit morceau qui manque, si on prend de ce côté très positif. Ils se sont dit que s'ils m'empêchaient de faire des choses, s'ils avaient peur de ne pas me laisser tenter ce que j'aimais faire, à moi de voir si je pouvais, si je ne pouvais pas. Après tout, quelqu'un de normal ou quelqu'un comme moi a des limites. Il ne peut pas pratiquer certains sports, ou il n'aime pas certains sports, ou il n'a pas les qualités physiques pour les pratiquer. On a tous des limites. Qui, mesurant 1m50, a envie de devenir un mannequin à côté de Claudia Schiffer? Oui, on a envie, mais ça ne se fera jamais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on a tous nos limites. Et j'ai eu des parents suffisamment intelligents et aventuriers, et audacieux, qui m'ont laissé tout en m'encadrant. En fait. Et c'est eux qui, par exemple, voyant que je débordais d'une énergie qui ne m'a jamais quittée d'ailleurs, m'ont emmenée à la patinoire d'Evreux quand j'avais 10 ans. C'était Edith Ballester, un prestigieux professeur de patinage, qui officiait dans cette petite patinoire. Cette patinoire, c'est le comptoir Elbeuvien. Je ne sais pas si certains d'entre vous s'en souviennent.
Moi,
le bar était aussi grand que la patinoire, hein, alors donc ça allait, on pouvait quand même s'entraîner, même si la patinoire était petite. Et ils ont rencontré Edith Ballester. Ils lui ont dit, bon, voilà le cas, elle est super active, il faut quand même qu'on lui trouve un truc à faire qui lui plaise. Alors, bon, elle a dit d'accord. Elle n'a même pas hésité une seconde, parce qu'on croise des gens formidables aussi sur ces aventures. Hein. Et ils sont revenus, j'étais au milieu de la patinoire. Et voilà.
Et vos études, alors, votre parcours scolaire?
Ben, mon parcours scolaire, il est sans aucun problème, puisque j'ai fait des études de droit, je suis devenue avocate, j'ai exercé en tant qu'avocate. J'ai eu aucun problème pour faire des études.
Donc, vous étiez dans le milieu judiciaire.
J'étais dans le milieu judiciaire.
Qui est un milieu très masculin.
Oui, peut-être. Moi, je n'ai pas eu de problème. J'ai pas eu de problème pour m'intégrer.
Non, vous n'avez pas souffert d'un double handicap.
Non, j'ai souffert d'aucun handicap. Le seul handicap que j'aurais pu souffrir, c'est d'être vraiment très mauvaise et de me faire jeter dans les 3 semaines qui venaient, parce que c'était à peu près ça. Mais non, ça n'a pas été le cas. Ils m'ont gardé. Et j'ai trouvé que c'était pas mal parce que j'ai trouvé que c'était un recrutement non seulement très très intelligent. Parce que pour être resté plus d'une dizaine d'années dans ce cabinet quand même assez prestigieux à Paris, pour pas dire franchement le top, on se rend compte que certains clients ont des handicaps, il leur manque la main. Et à l'époque, on avait tout pour que dans le cabinet ça se passe bien. Nous avions des secrétaires de couleur, nous avions la fille qui était handicapée, mais du moment qu'ils étaient bons, du moment qu'ils étaient sympas, ça passait.
Dites-moi, vous nous avez parlé du patinage, est-ce que vous avez fait d'autres sports?
Non, j'ai pas fait d'autres sports, oui, j'en ai fait d'autres, mais au niveau du patinage, non. Parce que peut-être à peine 6 mois après avoir commencé le patinage, je suis devenue, dans ma catégorie, championne de Normandie. Donc, à l'époque, les championnats en distance n'existaient pas. Et en plus, je leur avais réservé une petite pirouette sautée à 6 que j'avais repérée en regardant les championnats d'Europe et les championnats du monde, et que j'ai réussi. Et donc, j'ai terminé première. Voilà.
Merci, Marie-Hélène. Notre temps est minuté.
Moi, je suis une pipelette.
On va vous remercier pour l'instant. L'émission va continuer. Ah oui, vous restez avec nous. Maintenant, c'est à Florence qui va intervenir au niveau de la maison de vie de Saint-Cé, le Buis de Morsan.
Bonjour, on va commencer par Quentin. Bon, alors Quentin, je te laisse te présenter, voilà, si tu veux.
Bonjour, ben, moi c'est Quentin et j'ai 26 ans et je suis dans un foyer de vie. Handicap moteur de naissance.
Ben, moi j'ai Florence de Voyer, j'ai 61 ans et demi et j'ai handicapé par la main droite. Et ma question, c'est quand on va prendre le bus, il n'y a pas de possibilité de Florence. Et je voudrais que ça soit abouti, parce qu'avec l'ancien maire, on avait demandé, mais on avait fait une lettre, mais ça n'a pas abouti.
Bonjour, je me présente Varda, j'ai 28 ans. Mon anecdote, c'est le bras et le moteur.
Bonjour, je m'appelle Geoffrey, j'ai 40 ans et je suis handicapé moteur depuis la naissance.
Alors Quentin, peux-tu me dire comment tu perçois le regard des gens dans la rue ?
Eh bien, le regard des gens, je le perçois en général, ils sont curieux, ils veulent savoir pourquoi je suis en fauteuil et des fois ça les intrigue, donc du coup ils viennent me parler pour me poser la question.
Oui, moi je peux marcher encore, mais des fois les gens, ils prennent bien ça, mais pas ça, quand je suis au feu rouge, j'appuie sur le bouton parce que je suis autonome, je prends le bus. Et puis, moi, comme ça, comme il n'y a pas de feu rouge, les encadrés sont obligés de nous amener jusqu'à la mousse.
En fait, des fois, quand je vais dans la rue, quand je vais dire, il y a des enfants qui se posent des questions. Pourquoi il y a des gens qui sont là en côté? Pourquoi ils demandent.
Ça te gêne? Est-ce que ça te gêne ou est-ce que tu te sens bien?
Ça me gêne un peu.
D'accord.
En même temps, c'est normal que tu poses des questions.
Des fois, certaines personnes, pas toutes les personnes, nous regardent bizarrement dans la rue. Où il y a un enfant qui pose une question à sa maman, pourquoi il a un fauteuil lui, pourquoi il a un handicap comme ça, tout ça. Donc on est perçu par certaines personnes bizarrement et d'autres non.
Et ça te gêne?
Beaucoup. Non.
Ça te gêne beaucoup?
Oui.
Quentin, peux-tu me dire ce que tu penses de l'accessibilité? Est-ce que c'est suffisamment comment pris en compte dans les bâtiments publics, dans la vie de tous les jours? Est-ce que tu rencontres des difficultés? Est-ce que tu vois des choses bien?
Alors déjà, je vais commencer par le point très très bien. Oui, l'accessibilité sur les transports en commun sont impeccables. On va dire que ça fonctionne sur les voies et que ça, c'est assez bien. Et par contre, c'est sur certaines boutiques où on n'a pas encore aujourd'hui des accès. C'est compliqué.
Oui, moi, j'ai toujours un problème pour traverser.
D'accord.
C'est qu'il n'y a pas de feu rouge en face de la mousse.
D'accord, ok.
Et il faudrait faire le point avec la nouvelle maire pour que la mousse soit un feu ou des choses comme ça, ou quelqu'un d'accessibilité.
Ah oui. Alors, toujours sur l'accessibilité, Farida, qu'est-ce que tu peux nous dire, toi? Est-ce que ça te parle, déjà, le mot accessibilité?
Oui. Je vais pouvoir avec la mairie de Saint-Sébastien, parce qu'en fait, je suis sur la route et en fait, de la mise, quand je suis au cours de la mise, en fait, il n'y a pas de feu. Et il y a des voitures qui roulent vite et qui sont dangereux. Par exemple, quand je cherche toujours de faire attention, voilà. Mais moi, ce que je veux dire par là, il faut voir avec la mairie de Saint-Sébastien pour voir si c'est possible d'avoir le feu à côté de la
mousse. Alors, je sais toi.
Moi quand je sors, j'évite de prendre les trottoirs parce qu'ils ne sont pas toujours très accessibles. Donc je roule souvent sur le côté de la route, mais ça reste dangereux et tous les trottoirs ne sont pas accessibles forcément. Quand je me balade avec ma mère, c'est pas toujours accessible quand je vais chez l'ophtalmo ou faire les courses en certains endroits et tout ça. C'est pas toujours très accessible et des fois avec ma mère on a du mal à accéder. C'est pas assez pénible, mais bon, faudrait que les gens du bâtiment fassent quelque chose, ou je sais pas, dans Évreux ou dans Saint-Cyr, mais c'est pénible d'avoir toujours l'accessibilité, pas toujours très accessible.
PMR, personne. La mobilité réduite. Je vais vous parler en ce qui me concerne des aidants. Proches aidants ou bénévoles, qui passent inaperçus et restent discrets, qu'on oublie souvent, mais sont indispensables pour accompagner les personnes en déficience physique ou mentale, passagère ou définitive. Personnes diminuées, soit de naissance, soit suite à un accident ou sous l'effet de l'âge. Personnes en perte d'autonomie et que leur aptitude se trouve compromise. Il n'existe pas de profil type pour un aidant. L'aide apportée se mesure en tâches concrètes. Vie quotidienne, repas, toilettes, rendez-vous médicaux et plus. Être aidant, c'est bien plus que cela. L'engagement affectif ne se mesure pas. C'est l'une des dimensions les plus épuisantes. Ne pas penser à soi pour se rendre disponible pour l'autre. Mettre sa propre souffrance de côté. Il y a plus de 11 millions de personnes qui veillent sur un proche malade ou handicapé. 90% des aidants ne se considèrent pas comme tels. C'est un rôle qu'on ne choisit rarement, mais qu'on assume le mieux qu'on peut. Il n'y a aucun héroïsme à être aidant. Lorsque l'aidant demande de l'aide, c'est qu'il est à bout et faut agir dans l'urgence. Souvent, l'aidant se place en position de déni. Lorsque la réalité du quotidien est ébranlée par des symptômes de plus en plus présents, il faut agir. Se projeter dans une situation qui n'est pas encore la nôtre est très difficile. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision. Il faut se renseigner des aides auxquelles on peut prétendre auprès du département, Centre locaux d'information et de coordination, le CLIC, du Centre communal d'action sociale, le CCAS, avoir un soutien médical, service social infirmière à domicile, le SIAD. Il y a aussi des plateformes de répit à la journée. Il faut que chacun comprenne son rôle et surtout ses limites. Cette prise de recul et les conseils donnés par les professionnels sont indispensables. Solliciter une aide régulière avant que la fatigue physique et psychique ne se fasse trop sentir. S'éloigner par moments pour reprendre son souffle, ne pas s'oublier soi-même, car aider chaque jour est épuisant. Trouver une bulle à soi est une démarche vitale. Se sentir bien pour pouvoir aider. Il y a des groupes de parole pour partager une expérience commune et ne pas s'isoler. Ayant personnellement accompagné un proche plusieurs années, je conseille vivement de ne pas attendre pour se faire aider et prendre du recul régulièrement pour soi-même, recharger les batteries et ne pas culpabiliser. Je ne veux pas oublier infirmières, aides-soignantes, auxiliaires de vie, kinés, ergo et plus encore, qui chaque jour, avec bienveillance, conseillent et aident à tenir. Beaucoup de respect et merci à tous ces professionnels de santé.
Les rêves chauds et les étoiles nous matent, pendant qu'on kiffe et qu'on apprécie nos plus belles vacances. La vie est calme, il fait beau, il est 2h du mat. On a quelques sourires à partager notre insouciance. C'est ce moment-là hors du temps que la réalité a choisi. pour montrer qu'elle décide et que si elle veut, elle nous malmène. Elle a injecté dans nos joies comme une anesthésie. Souviens-toi de ses sourires, ce sera plus jamais les mêmes. Le temps s'est accéléré d'un coup et c'est tout mon futur qui bascule. Les envies, les projets, les souvenirs, dans ma tête, y a trop de pensées qui se bousculent. Le choc n'a duré qu'une seconde, mais ces ondes ne laissent personne indifférent. Votre fils ne marchera plus, voilà ce qu'ils ont dit à mes parents. Alors j'ai découvert de l'intérieur un monde parallèle. Un monde où les gens te regardent avec gêne ou avec compassion. Un monde où être autonome devient un objectif irréel. Un monde qui existait sans que j'y fasse vraiment attention. Ce monde-là vit à son propre rythme et n'a pas les mêmes préoccupations. Les soucis ont une autre échelle et un moment banal peut être une très bonne occupation. Ce monde respire le même air, mais pas tout le temps avec la même facilité. Il porte un nom qui fait peur ou qui dérange. Les handicapés. Il met du temps à accepter ce mot, c'est lui qui finit par s'imposer. La langue française a choisi ce terme, moi j'ai rien d'autre à proposer.
Nous venons d'entendre une chanson donc, de Grand Corps Malade, le sixième sens.
Envie du frais, du naturel, écoutez, principe actif, 102.4 FM.
Bonjour Madame Francine Marigliano. Tout d'abord, bien merci de nous avoir accordé ce temps qui vous est si précieux, je le sais. Alors, avant de vous interviewer, je vais faire adresser un petit coucou à la Maison de vie Saint-Sébastien de Morsan et notamment à nos quatre protagonistes de l'interview que nous retrouverons un petit peu plus tard. Alors, en premier lieu, je vous laisse vous présenter.
Francine Maragliano, adjointe au maire de la ville d'Évreux pour les personnes en situation de handicap, l'accessibilité, mais aussi l'aide aux victimes.
Voilà. Alors, un petit ressenti sur ce que vous venez d'entendre, sur le témoignage de Marie-Hélène, sur les aidants.
En fait, beaucoup d'émotions, et en même temps, je ressens beaucoup d'amour. Mais on le ressent au quotidien avec les familles, y compris lorsque je pars en vacances et que je repère souvent l'enfant en situation de handicap, même lorsque c'est invisible, ça se voit, ça se ressent. Et je suis toujours, moi, émue. Mais vraiment, hein, malgré, ça fait 30 ans quand même, il y a vraiment beaucoup d'amour, mais vraiment. Et ça se ressent là, y compris là, lorsque vous évoquez madame où elle est, voilà, les aidants, vraiment, c'est... Alors moi, j'ai envie de dire quand même, il y a une particularité autour des aidants, madame, hein. C'est quand même beaucoup les femmes, quand même.
Alors, nous allons carrément changer de sujet, parce qu'effectivement, là, donc là, je souhaitais donc aborder avec vous un sujet d'actualité qui est crucial, c'est l'inclusion des personnes en situation de handicap. Alors, avant, on parlait plutôt d'intégration. Donc, je pense que déjà, c'est important d'expliquer en quelques mots la différence.
Alors, déjà, l'inclusion, personne ne sait ce que ça signifie, à part quand on est dans le champ du handicap. Voilà. Donc, l'idée de départ, c'est quoi? C'est qu'avant, vous aviez évoqué la loi de 75, c'était la personne en situation de handicap qui devait faire les efforts et tous les efforts pour être comme tout le monde. Aujourd'hui, l'idéal, c'est que la société fasse, elle, tous les efforts pour que tout le monde puisse vivre chacun avec ses particularités. Ça, c'est dans le monde idéal.
Et pensez-vous, justement, que la société soit prête idéologiquement et matériellement à l'heure actuelle? Est-ce qu'elle est prête? Est-ce qu'on met les choses en place?
Alors, moi, j'ai envie de vous dire que la loi du 11 février 2005, j'aime à dire la grande loi du handicap, déjà, elle est unique au monde. Il a fallu qu'en France, nous passions par une loi. J'ai envie de vous dire qu'au quotidien, c'est un allié extraordinaire. Parce que du coup, ça devient obligatoire. Vous devez avoir un terme, madame, en termes juridiques, et il y a un terme qui m'échappe là. Ça devient opposable. Et ça, du coup, c'est un allié considérable. Vous évoquez l'accessibilité dans les villes, des bâtiments publics, mais aussi dans l'emploi, à l'école. J'espère qu'on va avoir le temps d'en parler. C'est un vrai sujet. Donc oui, cette loi nous aide au quotidien, vraiment.
Donc justement, nous allons aborder le problème de l'école, parce que l'inclusion, effectivement, ça commence aussi par les enfants. Donc c'est vrai que de plus en plus, on inclut donc les enfants en situation de handicap au niveau scolaire. Et bon, moi, personnellement, je travaille aussi sur ce sujet. Et pensez-vous justement que le milieu scolaire est prêt à accueillir tous ces enfants en situation de handicap? Parce que l'inclusion est facile, et on pense aussi aux professionnels, aux instituteurs et aux encadrants.
Alors moi, j'ai d'abord envie de dire que tout le monde a envie de bien faire. Tout le monde a envie d'accueillir. Une fois qu'on part de ce postulat-là, les choses sont faites. Je pense qu'il y a d'une part une meilleure évaluation, de plus en plus précoce, ce qui fait qu'on a une augmentation connue d'enfants en situation de handicap, visibles et invisibles. Nous n'oublions pas, 85% des handicaps sont invisibles. Et là, nous parlons d'enfants et on voit bien que la grande problématique, c'est déjà le repérage et l'officialisation, le terme est un peu lourd, mais du handicap. Pourquoi ? Parce que derrière, il ouvre un accompagnement particulier. Et si cet accompagnement n'est pas mis en place, tout le monde est en souffrance. L'enfant, la famille, les professionnels de l'éducation et même la commune qui accueille ces enfants pour encore avoir dû gérer une situation en urgence hier matin.
Voilà, donc est-ce que justement l'éducation nationale fait la place à l'inclusion, sujet crucial aussi?
Alors, je vais le faire comme je le fais d'habitude, je vais vous parler très sans langue de bois. Je suis dans le champ du handicap depuis maintenant 30 ans, présidente moi-même dans le champ du handicap, très militante, y compris au niveau national, l'école inclusive à vos côtés. Comment dire ? J'ai envie de dire qu'il y a la loi qui dit que tous les enfants doivent bénéficier d'une scolarité de 0 à 16 ans. Ça, c'est la loi, enfin 0, non. Ils ont une nuit, 3 ans, 16 ans. Il y a... par la loi du 11 février 2005, je sens ce silence là où vous attendez ma réponse, c'est terrible, où la loi dit qu'il faut mettre tous les outils de compensation. Les outils de compensation, ça passe par quoi ? Eh bien, souvent les particularités, cela peut passer par de l'aide humaine, du matériel technique, des outils pédagogiques particuliers, aussi des financements, hein, pour pouvoir aller voir des orthophonistes quand on a la chance d'en avoir suffisamment et qu'on n'a pas des mois d'attente. Donc c'est tout ça la scolarisation des enfants. Le problème, c'est qu'on parle d'inclusion, vous l'avez évoqué en début d'année, en début de réunion, mais en même temps, il y a l'ONU qui nous dit « En France, vous avez beaucoup trop d'établissements, vous devez absolument travailler davantage l'inclusion. » Et nous, les familles, et côté le côté militant, disent « Non, tous les enfants ne peuvent pas aller à l'école, on risque de les mettre en grande souffrance. » Et ça, on n'en parle pas suffisamment. Et donc, il faut continuer à avoir des services spécifiques. Et quand je discute avec les professionnels de services spécifiques, notamment des IME, instituts médico-éducatifs, qui accueillent quand même des enfants à besoins particuliers, mais quand même des besoins importants, eh bien, normalement, quand on a des troubles de l'apprentissage, il faudrait encore plus de moyens éducatifs. Et là, malheureusement, c'est encore moins de moyens. Donc, il y a un vrai sujet. Et on ne peut pas parler d'emploi et d'emploi accompagné si on ne met pas les moyens nécessaires pour l'école. Il y a un véritable enjeu. Et pour tout vous dire, quand on sait qu'à partir du mois de mars, les caisses financières pour pouvoir financer de nouvelles notifications d'auxiliaires AESH, alors AESH, auxiliaires éducatifs, d'accompagnement d'enfants handicapés, bref, à l'école, c'est comme si vous alliez voir votre médecin, vous avez une grippe, vous avez une ordonnance avec des médicaments, mais vous n'aurez pas les médicaments au moment où vous en avez besoin, mais 3 mois après. Ça ne sert pas à grand-chose.
Mais écoutez, déjà, vous avez un petit peu anticipé sur une de mes dernières questions, c'est par rapport justement au rapport de l'ONU, qui effectivement, qui est du 14 septembre 2021, et qui pointe la France, bafoue les droits des personnes en situation de handicap. Et notamment la prise en compte des revenus du conjoint dans l'attribution de l'AAH que Mme Cluzel s'évertue à défendre. Alors bien sûr, il y a d'autres points, notamment vous avez abordé l'école, hein, la place de l'enfant à l'école. Il y a aussi d'autres points, mais malheureusement, on va être un petit peu contraint par le temps. Mais notamment ça, l'histoire de l'AAH avec la prise en compte des revenus du conjoint, je pense que c'est une mesure qui n'est pas très bien.
Aujourd'hui, on entend parler sur toutes les ondes du pouvoir d'achat. Qu'est-ce qu'on entend par l'allocation adulte handicapé ? C'est ce qui permet, suite à un passage devant des médecins, d'attribuer ce n'est pas vraiment un revenu, mais en tout cas, ça permet de vivre aux personnes en situation de handicap. Et il faut prouver que les personnes ne peuvent pas travailler. C'est quand même, ça part de là. Lorsqu'on vit en couple, ou même en concubinage, ou même dans une famille, on prend l'ensemble des revenus de la famille pour pouvoir décider si vous pouvez bénéficier de cette aide financière ou pas. Au moment où on parle beaucoup des violences intrafamiliales, par exemple, on sait bien que si la femme est dépendante du revenu de l'autre, on partira beaucoup moins facilement. Et là, l'histoire de l'individualisation, finalement, de l'allocation d'adultes handicapés est au cœur valeur de l'autonomie. Vous évoquez, madame, au début, l'autonomie. Eh bien, l'autonomie, ça passe par une autonomie financière. Et d'avoir répondu, parce que moi, du coup, j'avais écouté les débats à l'Assemblée nationale, que ça ne pouvait pas se mettre en place à cause des algorithmes, c'est juste pas entendable. Comment est-ce que les algorithmes vont bloquer la vie humaine? C'est l'inverse. C'est la vie humaine qui décide aux algorithmes de travailler à notre demande.
Madame Marie Briano, je vous remercie pour votre intervention. On aurait pu continuer encore, on a plein de sujets qu'on n'a pas abordés. Voilà, le logement, enfin plein de choses comme ça. Alors maintenant, nous laissons la place à Sylvie et ses bonnes nouvelles.
Bonjour. Dans la chronique « Bonnes nouvelles » de Belles Initiatives, concernant le sujet de ce jour, à vous proposer. Pour changer le regard sur le handicap, et notamment celui des personnes atteintes de trisomie 21, l'association Cool Down a imaginé une campagne percutante. Pour cela, cette association qui milite pour l'inclusion de ces personnes s'est offert en mars 2021 les services du chanteur Sting et de l'agence new-yorkaise Smile pour réaliser un spot intitulé The Hiring Chain, en français La chaîne de l'embauche. Ce clip a mis en scène une jeune trisomique venant d'être embauchée dans une boulangerie. L'impact de cette initiative vertueuse incite d'autres personnes à faire de même. Un magnifique plaidoyer pour plus d'inclusion et de diversité au travail. Plus près de chez nous, d'abord à Paris, puis à Rouen, un restaurant Le 21 situé dans le centre historique est une entreprise adaptée qui emploie et forme majoritairement des personnes en situation de handicap cognitif ou mental. Une autre bonne nouvelle, une première en Europe. À Paris, le langage des signes va devenir une langue vivante en secondaire. Une belle avancée. Et je vous dis au mois prochain pour encore plus de bonnes nouvelles.
MDPH, Maison départementale des personnes handicapées.
Alors maintenant, nous allons parler de l'hébergement. Est-ce que vous êtes satisfait ou dans quelles conditions vous êtes logé et comment ça se passe?
Eh bien, les conditions où on est logé, moi je suis dans un petit studio à côté du foyer et je suis plutôt bien logé et c'est très bien. Donc c'est vrai qu'au niveau, on est bien, on est vraiment bien dans le logement, on a quand même une grande cour, donc ça aide beaucoup pour le moral.
Bien.
Ouais, moi, je suis très bien logé, ça fait 5 ans que je suis là. Et puis, vraiment, j'entends bien avec les autres, c'est bien, et puis j'ai une bonne ambiance. J'ai moins de handicap. Une belle chambre.
Alors, Farida, on reprend avec toi. Est-ce que tu peux nous dire si tu es satisfait de ton logement, si tu t'y plais bien ou si tu préférais parfois être ailleurs? On rappelle que vous êtes dans un foyer.
Moi, je suis dans un foyer. J'aime bien l'activité, les archers. Mais sauf que des fois, j'en ai marre. Parce que là, je monte de sanctions, des rues, des. Ça gagne entre les résidents, ça gagne. Et du coup, des fois, j'en ai un peu marre. Le prochain soir, j'arrête dans ma chambre. Au soir, je vais dehors pour me promener parce que j'en ai un peu marre. De l'entendre crier.
Voilà, moi, en fait, je suis bien au foyer. Je me prends la tête avec personne et je suis bien. Je suis bien dans mon handicap, je suis bien dans le foyer. On est un foyer où il y a 22 chambres plus un studio. Et on est dans des ailes de sept chambres.
Alors, un sujet que vous avez voulu aborder qui est la sexualité. Alors, toi, Quentin, qu'est-ce que tu veux nous dire là-dessus?
Eh bien, au niveau de ça, c'est qu'on a le droit d'avoir quelqu'un dans notre vie, même si on est en situation de handicap. Car au jour d'aujourd'hui, je pense qu'on oublie qu'on est aussi des êtres humains et qu'on a le droit d'avoir une sexualité comme tout le monde, adaptée à chacun. Et que je voulais dire ces petits mots pour essayer d'ouvrir un peu plus la voie sur ce sujet.
Bon, moi, j'ai un copain qui s'appelle de moi. Pour moi, on est mis en contact depuis le jour que j'étais en stage. J'étais bien, puis quand je suis revenu, moi, il m'a reconnu tout de suite.
Et toi, ça vous a dit d'en parler. Ben, je vais interroger Josserelle, là.
Bon, ben, moi, je suis en couple avec la résidente du foyer Dorothée. Ça se passe très bien.
Tu es heureux?
Et je suis heureux.
Moi, j'ai rencontré un ami, ça fait longtemps, ça va être une rencontre. Et du coup, il a promené ses sorties, elle a envie, du coup, on l'a vu, et du coup, il viendra me voir en vrai samedi pour qu'on se rencontre.
D'après ce témoignage, une facette du handicap qui ne vient pas toujours à l'esprit, la vieillesse. Pas de l'amour comme terme, l'avancée en âge, pas mieux, l'automne de sa vie, ah, bravo le poète. Mais pour les gens concernés, l'âge est toujours là et ils le constatent dans leur vie. Rien ne sert de l'ignorer et se dire « faisons comme avant ». Non, parce qu'avant c'était naturel, évident, sans se poser la question. Et à quoi la voit-on, cette satanée vieillesse? Et justement, on ne la voit pas, mais on en mesure les conséquences qui vont de risibles à dramatiques. Alors que faire? D'abord, mettre son ego dans sa poche et s'adapter. Procéder différemment dans sa façon de vivre. Certains de ses comportements doivent changer. Réduire les distances pour la conduite automobile, prudence dans les tâches domestiques, finir les chaises pour attraper les choses en hauteur, utiliser un marchepied, ça sera mieux. Prudence dans le bricolage, bannir les échelles pour monter sur son toit, et pour quelque raison que ce soit, éviter les efforts physiques intenses. Pour faire simple, éviter de mettre le cardio dans le rouge, comme sur autoroute, pas plus de 130. Surveiller son alimentation, et là nous aurons l'occasion d'y revenir lors d'une prochaine émission. Voilà, en gros, accepter son âge, ne pas se croire mieux que ses cousins de date de naissance, faire à son rythme, être soi-même, privilégier les liens familiaux ou associatifs, pratiquer des activités cérébrales ou physiques. Vous voyez, j'évite le mot sportif que l'on doit oublier. Tout est question de dosage, de tempo. Que même si la tête commande, ne pas oublier le corps. La tête doit demander au corps s'il suit. Attendre la réponse, l'écouter. Et si la tête est sourde, eh bien, la place arrive avec toutes les conséquences dont je vous fais grâce. Pour résumer, pas de panique. Le pire n'est jamais certain. Gérons notre tête, notre corps et notre cœur. Et le moral continuera à se maintenir au beau fixe. Et pour cela, assumer sa retraite, l'accepter, pas comme la reine Elisabeth ou Michel Drucker. Et maintenant, nous allons entendre le conte de Lucette.
Il était une fois six amis qui avaient décidé de découvrir ce qu'était un éléphant. Ils sont allés au jardin zoologique et là, on les a vite remarqués. Ils avaient tous les six une canne blanche. C'était des aveugles. Oui, je vous ai bien dit voir, parce qu'eux, ils voient avec leurs mains. Alors le premier s'est avancé, la main en avant, et il a rencontré le flanc de l'éléphant. Il a touché, c'était solide, c'était grand. Mais c'est un mur, un éléphant, a-t-il dit. Alors le deuxième a voulu vérifier. Mais quand il est arrivé près de l'éléphant, c'est la trompe qu'il a eue entre ses mains.
Mais non, dit-il. Un éléphant, c'est un serpent. Il est souple, il bouge. Alors, le troisième s'est dit qu'il allait vérifier. Quand il est arrivé, il a touché la défense. Effectivement, la défense était longue, mais elle était dure, solide et pointue. Mais c'est une lance, un éléphant. Les autres se demandaient ce qu'ils allaient découvrir, quel était cet animal bizarre. Alors le quatrième est arrivé et lui, il a rencontré l'oreille de l'éléphant. Elle était souple, effectivement, mais grande. Mais c'est un éventail, dit-il. Elle n'arrête pas de bouger. Le cinquième, lui, quand il est arrivé, il devait être plus petit que les autres parce qu'il s'est heurté au genou de l'éléphant. C'est rond, c'est noueux, c'est dur, mais c'est un arbre, un éléphant. Alors le dernier est venu, et lui, il a rencontré la queue de l'éléphant. Il était long, effectivement, me dit-il, c'est une corde, elle s'y filoche même au bout. Alors, tous les six ont commencé à discuter fermement pour défendre leur avis. Et bien qu'amis, la discussion commençait à virer à la dispute. C'est alors qu'est arrivé un sage. « Mais Capi, qu'avez-vous ? » a-t-il dit. « Pourquoi vous discutez-vous ainsi ?» Alors ils ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord sur ce qu'était un éléphant. Et le vieux sage a souri. « Mais vous avez tous raison. Vous vous êtes avancés et vous avez touché chacun une partie différente de l'éléphant. Si vous mettez tout ce que vous savez en commun, vous aurez vraiment ce qu'est un éléphant. » Le vieux sage a tourné les talons, il est parti, les six amis se sont réconciliés, ils sont repartis aussi, persuadés que c'était eux qui détenaient leur part de vérité. Voilà, maintenant nous allons écouter un témoignage lu par Paul.
Hélas, dans certaines familles, il peut y avoir des incompréhensions. Je connais une jeune femme mariée à un Grec et vivant là-bas, qui, à l'annonce de sa deuxième grossesse, espérait avoir un garçon, et ce fut le cas. C'est le soir de son accouchement que la jeune maman, en regardant les petits pieds de son fils, a détecté un problème. Le couperet tombe quelque temps après, trisomie 21. Les parents sont heureux, mais les épreuves tombent sur eux. Les grands-parents sont en France. Les photos montrent l'attention qu'ils ont pour leurs enfants et le petit Yannis s'est élevé comme sa sœur. Pour le grand-père français, c'est insupportable. C'est de leur faute, dû à une vie de bohème. Le médecin français de cette famille leur remonte le moral en expliquant le même problème avec une patiente de 29 ans. Puis les grands-parents vont voir la famille en Grèce. Yannis est grand maintenant. Il vit dans son monde, à sa façon, à son rythme et dans son univers. Ce que ne comprend pas le grand-père n'ayant jamais été en contact avec ce genre de maladie. Ils font une sortie et au repas de midi, Yannis demande une brochette qu'il mange avec les doigts. Le grand-père, lui, fait une remarque qui, au bout d'un moment, dégénère. Ils s'en viennent presque aux mains, mais sont arrêtés par la maman et les hôteliers compréhensifs. La jeune maman calme son fils et la grand-mère française son mari. Mais la phrase de conclusion du grand-père à sa fille, « Tu ne peux pas garder cet enfant chez toi, il va falloir songer à le mettre dans un établissement spécialisé. » Yannis a 27 ans maintenant, n'a jamais été en maison spécialisée. Il a suivi un temps une scolarité quasi normale, mais en Grèce, ils ont très peu de structures adéquates. C'est un jeune homme maintenant. Il adore danser, il est passionné de musique, il joue de la batterie, de la guitare, du pipeau, et passe de longs moments devant son ordinateur. Il est assez indépendant, il vit chez ses parents, mais il a des responsabilités et doit aider à certaines tâches familiales. Il le fait avec plaisir, et ce qui est très touchant, c'est son regard une fois sa tâche faite en attendant. Non, il attend. C'est bien Yannis. Son père serait plus strict, mais avec sa mère, c'est « mam par-ci, mam par-là ». Il adore avoir ses câlins et tous les deux sont très touchants.
Je donne la tête contre le mur. Je fais des mouvements incontrôlés. J'entends tout le temps comme des murs. Je pars en avant, je pars sur le côté. Mes parents ne disent pas grand-chose. Sauf que j'ai une maladie rare dont ils ne savent pas quelle est la cause et qui m'empêche pas d'être pénible. Depuis tout petit, bébé déjà, c'est différent, je sais pas pourquoi. Je veux dire que souvent, je comprends pas pourquoi je suis un enfant comme ça. Je parle pas beaucoup, je comprends rien. J'ai vu les vieux qui s'oublient. Lorsqu'il me supplie, mon père enfin, après les larmes, après les cris. Je suis un enfant qu'on dit autiste, j'ai ma singularité. Je pense que ma vie est une patrice. Je la vie, combien je change.
Nous venons d'entendre Renaud et l'enfant différent.
C'était pas très actif. Là, tu as des
aujourd'hui, grâce au cinéma, au théâtre, au sport, aux médias, le handicap sous toutes ses formes fait partie de notre quotidien et peut être mis en avant pour faire tomber toutes les barrières. Mais qu'en était-il il y a 2 siècles ? Cette période portait un certain regard sur ce sujet. Durant tout le 19e et la moitié du 20e siècle, les pires préjugés et démonstrations malveillantes étaient monnaie courante. En effet, il s'agissait de mettre en scène et d'exposer des personnes ayant une pathologie de handicap physique ou tout autre. Cela s'appelait des spectacles de monstres ou freak show. Au cinéma, l'un des premiers films dépeint cette période peu glorieuse. Il s'agit de La monstrueuse parade en 1932 de Tob Browning qui se passe dans un cirque et présente des personnages avec un handicap physique de naissance. Film scandaleux et dérangeant à l'époque, il est aujourd'hui considéré comme un chef-d'œuvre. Dès l'avènement du cinéma muet, les personnes ayant une invalidité ou accidentées de la vie sont mises en scène soit comme faire valoir d'un acteur célèbre, soit comme personne inquiétante et sombre ou positive et bienveillante. Tel le film de Charlie Chaplin, Les Lumières de la Ville, en 1931, avec une marchande de fleurs aveugle. Et la Première Guerre mondiale va faire découvrir d'autres monstruosités liées aux armes et aux conflits. Il s'agira des gueules cassées et de son lot de traumatismes visibles et invisibles, de handicaps physiques et psychiques. Le regard va alors évoluer. Des films incontournables favoriseront une prise de conscience et un autre regard sur le handicap. Elephant Man de David Lynch, sorti en 1980, retrace la vie de Joseph Merrick, atteint du syndrome de Protée, maladie très rare. Forrest Gump de Robert Zemeckis, en 1994, montre un Tom Hanks en jeune autiste traversant l'histoire des États-Unis. Rain Man met en scène un autiste adulte, Dustin Hoffman, et son frère complètement perdu, Tom Cruise, en 1988. En France, il faut attendre 1996 pour qu'un film donne le rôle principal, pour la première fois, à un comédien porteur d'une trisomie 21, Le 8e jour, avec Pascal Duquesne. Et d'autres films cultes. Intouchable en 2011, De rouille et d'os en 2012, Patient en 2016. Les personnages vont découvrir le handicap suite à un accident de la vie et vont le surmonter. Et beaucoup d'autres encore. Mais le dernier, Presque, de Bernard Campan et Alexandre Jolienne en 2022. L'un est humoriste et comédien connu, l'autre est écrivain, philosophe et handicapé cérébral-moteur de naissance. Une ode à la vie, à la différence et à l'acceptation de l'autre.
Un sujet reste néanmoins tabou et dérangeant, celui de la vie affective, intime et sexuelle pour tous et pour toutes. Là aussi, le cinéma apporte un éclairage. Le premier film à en parler de façon explicite fut The Session, paru en 2012. Écrivain paraplégique, le personnage fait appel à une assistante sexuelle pour perdre sa virginité. Au théâtre aussi, le handicap est présent. Telle Emmanuelle Laborie, actrice, écrivaine, sourde de naissance, qui monte sur scène jouer les pièces en langage des signes. Pour conforter et ancrer ces évolutions de mentalité, deux lois fondamentales ont fait avancer la prise en charge et la considération de ces personnes, déjà abordées par Mme Maragliano. Tout d'abord, la loi du 30 juin 1975, portée par Simone Veil sur l'intégration des personnes. Le handicap devient un sujet politique. 30 ans plus tard, la loi du 11 février 2005 est une avancée véritable et un tournant dans le combat associatif. On ne parle plus alors d'intégration, mais d'inclusion. Vivre non seulement avec les autres, mais aussi comme les autres. C'est le reflet de tout ce que nous avons entendu durant cette heure. Et l'actualité apporte des bonnes nouvelles. Le film américain Coda, adaptation du film français La famille Bélier, sorti en 2014, a reçu dimanche soir l'Oscar du meilleur film. Enfin, la ville d'Évreux et Cinépathée organise tous les premiers samedis du mois une séance spécifique pour les personnes en situation de handicap au prix de 6 euros la place. Tous au cinéma! AAH, allocation adulte handicapé.
Pour mon billet d'humeur aujourd'hui, je vais vous parler de moi. Ça y est, l'âge m'a rattrapé. Comme dans la chanson de Michel Delpech, quand j'étais chanteur, j'ai mon rhumatisme qui devient gênant. Ma pauvre Cécile, j'ai 73 ans. Moi aussi, et j'en ai vu dans ma vie. Mais je ne m'attendais pas à revoir les chars russes, de triste mémoire. 1956, Budapest, la Hongrie. Les années suivantes, j'étais jeune, pour moi c'était le passé. Août 1968, il y a déjà 53 ans, je lavais ma gamelle en fer au robinet quand j'entends au transistor de la tente d'à côté les chars russes. Et là je me dis, ils sont gonflés de ressasser le passé. Ce jour, pourtant, c'était Prague, la Tchécoslovaquie. Et en prenant de l'âge, c'était le passé. Le monde évoluait. Et dans le bon sens, pensais-je. Enfin, pas toujours le bon sens, quand on voit le nombre de milliardaires, même chez les Russes. Mais le passé est derrière nous. Et bingo, 2022, les chars russes en Ukraine. Et là, décidément, le passé a la peau dure. Il continue à faire des ravages. Tel un ancien volcan que l'on croyait éteint. Bref, la bête vit toujours avec ses mots en isme. À 73 ans, cela me réveille et me révolte. Et je constate que la meilleure arme pour lutter en démocratie, c'est le bulletin de vote. Ne pas voter, c'est se bâillonner soi-même. Oui, votons, votez. Ne vous plaignez pas, votez. Ne rejetez pas la faute sur les autres, votez. Si vous appréciez, votez. Si vous êtes contre, votez. Si la médecine vous permet de vivre, votez. Si vous aimez votre famille, votez. Si vous vous aimez, et il faut commencer par cela, votez. Les 10 et 24 avril, votez pour l'élection présidentielle. Et pour conclure, un monde sans espoir est irrespirable. André Malraux.
Notre émission tire à sa fin. Comme vous l'avez certainement remarqué, nous n'avons pas pu aborder toutes les facettes du handicap. Elles sont trop nombreuses et notre heure est bien vite passée. Cependant, nous espérons vous avoir transmis l'idée que le handicap n'est qu'une forme de vie comme les autres, avec son lot de joie, de peine. Les personnes porteuses de handicap vivent, grandissent, aiment et ont parfois des enfants, une activité professionnelle, participent à la vie de la cité. Certains ont même la chance et le courage de vivre leur passion, que ce soit la musique comme Michel Petrucciani, que nous entendons à l'heure actuelle sur ce que je dis, et puis Beethoven, le compositeur, les chanteurs Gilbert Montagnier et Grand Corps Malade, les sportifs qui, une fois de plus, ont gagné des médailles lors des Jeux Olympiques, Cécile Hernandez, Arthur Bauchet, et puis les scientifiques comme Stephen Hawking. C'est à nous et au pouvoir public de faciliter leur insertion dans la vie sociale, la vie professionnelle, leur pratique de loisirs sportifs, artistiques, intellectuels. Mais n'oublions pas que faciliter la vie, ça n'est pas faire pour eux. Les personnes porteuses de handicap savent très bien se gérer avec leurs difficultés. Merci encore à nos deux invités, Marie-Hélène Dupoux et Francine Marie Guillano, à toute notre équipe, Florence, Marie-Claude, MC, Michel, Michel, Paul, Sylvie, Lucette, sans oublier Vincent et Jean-Jean, nos aidants à nous. Rendez-vous le 28 avril pour notre nouvelle émission.